Dans un mois exactement, beaucoup d'entre nous seront au pied du sapin à déchirer quelques paquets colorés. À un mois de Noël exactement et à la veille du Black Friday. Question sur le marché du jouet avec nos invités jusqu'à 13h45. Ils concentrent beaucoup des questions du moment, pénurie ou pas, hausse des prix ou pas, les mois de confinement ont-ils changé les habitudes, la cinquième vague de Covid va-t-elle stopper la dynamique qui semblait revenir. Le dernier trimestre présente la moitié des ventes annuelles de jouets. Alors est-ce que vous avez déjà fait vos achats? Est-ce que vous avez trouvé ce que vous vouliez et où? En ligne, dans un petit, dans un grand magasin? Les mois de confinement ont-ils changé vos habitudes? 01 45 24 7000, l'appli France Inter, rubrique réagir pour vos questions et témoignages. Nos invités sont Frédéric Teut, vice-présidente de NPD qui observe nos habitudes de consommation, et le directeur général de la Fédération française des industries jouets et périculture, Christophe Drevet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Frédéric Teut, quand les achats de Noël commencent-ils traditionnellement? Est-ce qu'ils ont commencé plus tôt cette année?
Alors, traditionnellement, ils commencent à partir des vacances de la Toussaint où les enfants reçoivent les catalogues à la maison, commencent à entourer les jouets sur le catalogue et les parents et le Père Noël s'y mettent. Donc là, effectivement, on a vu que les ventes se sont un petit peu emballées sur les deux premières semaines du mois de novembre et on a une tendance positive. Donc oui, c'est bien commencé.
On a retrouvé, Christophe Drevet, les chiffres de 2019 en termes de marché de Noël.
Alors, on les a retrouvés, on les a même dépassés, puisque là, à date, à mi-novembre, on est à peu près à plus 8% par rapport à 2019. Donc, on est bien meilleur que 2020 avec les confinements et la situation que l'on connaît. Ouais. Mais on a même rattrapé 2019. Et ça, c'est en France, mais c'est au niveau mondial qu'il y a ce dynamisme du marché du jouet.
Vous l'interprétez comment ?
En fait, on a envie de faire, en particulier de cette année, après deux années extrêmement compliquées, et on se rappelle que Noël dernier, on était à 6 au maximum, ouais. On pouvait pas se réunir plus facilement que ça. Là, il y a une envie de recréer, c'est une grande fête familiale, de recréer un événement qui soit le plus inoubliable possible, et c'est le moment particulier où on veut faire plaisir aux enfants.
Est-ce que vous redoutez que la cinquième vague de Covid freine cette dynamique, Christophe Drevet?
L'envie d'offrir des cadeaux et des jouets à ses enfants, elle est là, Covid ou pas Covid, on l'a vu. Alors après, ça peut avoir un impact sur les circuits de distribution. Oui. Voilà, aujourd'hui, tous les circuits de distribution restent ouverts. Les magasins spécialisés, les GSA mettent en place tous les systèmes pour réguler.
GSA pour grande surface. Pour
grande surface alimentaire, okay. Les hypermarchés, okay. Pour faire plus simple. Et on voit que voilà, tout est fait pour bien canaliser le mieux possible les choses. Donc les parents, les grands-parents ont envie de faire leurs achats et puis ça se constate concrètement dans les magasins en ce moment.
Frédéric Teut, les achats en ligne, plus 22% cette année par rapport à 2020. Mais vous dites, les Français achètent plus que d'autres en magasin leurs jouets.
Oui, effectivement, c'est une spécificité française. On a vu que les Français sont revenus en magasin pour soutenir le petit commerce de détail. Et en ça, on est un petit peu différent de ce qui se passe en Angleterre ou en Allemagne, où après avoir acheté en ligne pendant des mois et des mois pendant le confinement, depuis mars 2020, en fait, les Anglais et les Allemands continuent sur ces habitudes-là. Mais nous, en France, on voit en fait que le circuit des spécialistes, le circuit traditionnel, est très dynamique et continue à gagner des parts de marché.
Et quand vous dites circuit traditionnel, c'est les grandes surfaces de jouets, c'est les petits magasins de centre-ville, c'est les deux, c'est quoi ?
C'est les deux, ouais. Effectivement, c'est les deux. On voit un petit changement par rapport aux habitudes d'avant, parce qu'en fait, beaucoup d'entre nous sommes en télétravail. De ce fait, on n'achète pas forcément nos jouets au même endroit qu'on les achetait auparavant. Mais on reste fidèle aux spécialistes jouets.
Alors, parlons des tendances de cette année. Pokémon, Lego, figurines, Funko Pop, c'est bien ça ?
Oui, alors là, vous parlez des tendances qui sont à la fois adultes, mais aussi kidultes.
Okay.
Donc, les kidultes, ce sont les jeunes de plus de 12 ans qui continuent à jouer ou qui ont recommencé à jouer. Et c'est le cas pour beaucoup de jeunes adultes qui reviennent sur Pokémon comme de leur enfance. Et tout ça, ça s'explique par les 25 ans de Pokémon.
Et ça, c'est un effet du confinement aussi, ce phénomène kidulte.
Oui, tout à fait. Ouais. On a vu que les Français et les Européens aussi ont recommencé à jouer aux jeux de société, soit entre adultes, mais aussi ouais. En famille. C'était un bon moyen pour rester tous ensemble loin des écrans. Donc le jeu de société est à plus 20%, imaginez bien, par rapport à 2020. Et plus 37% par rapport à 2019. Donc c'est une vraie tendance de fond. Encore, le jeu et le puzzle.
Encore un mot étrange et je redonne la parole à Christophe Drevet. Unboxing, ça fait partie des tendances. Qu'est-ce que c'est ça, unboxing ?
Alors l'unboxing, ça s'inspire des vidéos qu'on va trouver sur YouTube, Instagram ou TikTok, où les enfants ou les adultes effeuillent, si vous voulez, le packaging, le paquet, pour découvrir le jouet à l'intérieur. Et ça, c'est une tendance très très forte que l'on constate depuis 2 ou 3 ans. Et qui encourage la collection, puisqu'on achète un paquet à l'aveugle. On ne sait pas effectivement ce qu'il y a à l'intérieur.
Christophe Drevet, pénurie ou pas ?
Non, pas de pénurie. Voilà.
Aucun rayon, aucun produit ?
Non, alors il peut y avoir, mais ça c'est spécifique au marché du jouet. Vous avez dit en début d'émission que 50% des ventes se font sur le dernier trimestre, et on peut même rajouter qu'un tiers des ventes de l'année se font sur le mois de décembre uniquement. Okay. Donc c'est un marché qui est sujet à des ruptures de stock, parce que les campagnes d'achat se font 6 mois, 9 mois, quelquefois 1 an à l'avance. Et donc c'est très difficile de prévoir le goût et le choix des enfants 1 an à l'avance. Donc par nature, à Noël, on a toujours le phénomène de la course aux jouets. Si on s'y prend à la dernière minute, la semaine avant Noël, il peut manquer des références sur les rayons. Et donc, par rapport à la fameuse liste, si on n'a pas le jouet numéro 1, on va aller chercher le jouet numéro 2, voire le jouet numéro 3. Ce phénomène a toujours existé et va continuer à exister cette année. Après, en raison des problèmes de transport, d'acheminement, il peut y avoir des phénomènes un petit peu plus marqués, mais ça peut concerner une référence dans une collection, dans une gamme, mais l'offre, elle est bien là et elle va bien être là jusqu'au 24 au soir.
Et vous dites aussi pas de hausse de prix, ce qui est surprenant, mais vous allez nous expliquer pourquoi. Pas de hausse de prix en tout cas cette année. On se dit que entre les difficultés à se fournir en matières premières, les hausses très fortes de prix de transport, le transport ça peut représenter jusqu'à un quart du coût final aujourd'hui, voire au-delà, c'était 5% il y a quelques années, mais pas de hausse des prix néanmoins. C'est l'année prochaine que tout ça va se répercuter.
Alors, il y a eu un vrai travail de fait à la fois des fabricants, des distributeurs pour contenir ces hausses qui sont arrivées extrêmement brutalement, si on parle du transport maritime. Oui. Quand vous parlez de l'impact sur la marge, ça concerne les produits les plus volumineux, bien entendu. Après, les prix sont fixés quasiment un an à l'avance. Ils sont vendus aux clients un an à l'avance. Donc, il n'y a pas non plus une latitude pour tout changer à la dernière minute quand le prix du transport flambe ou les matières premières flambent. Donc, on voit que ça a été relativement bien contenu sur cette fin d'année. Ensuite, il va y avoir un impact sur l'année 2022, comme dans tous les domaines d'activité. C'est pas spécifique aux jouets. Tous les produits de grande consommation, alors qui par le transport, qui par les matières premières. À date, c'est un petit peu difficile d'évaluer le niveau d'inflation. Maintenant, c'est le travail des fabricants de rationaliser leur offre et peut-être de travailler différemment leurs produits, la taille des packaging, etc., pour que notamment le coût du transport soit moins élevé et limiter les hausses et donc l'impact sur le prix final.
Frédéric Teut, vous confirmez pas de hausse des prix à l'heure où on commence à parler pas mal d'inflation, pas de hausse des prix sur les jouets cette année.
Alors, on a fait une petite étude sur les meilleurs jouets vendus en octobre et on constate une augmentation de 3% sur les 100 meilleures ventes. Donc 3%, vous voyez, c'est relativement négligeable. Donc sur un jouet à 10 euros, ça représente 30 centimes. Et si on parle d'un beau cadeau de Noël à 50 euros, ça fait 1,50 euros. Donc je pense que pour l'instant, c'est un phénomène relativement invisible pour le consommateur. Et comme le dit Christophe, c'est vraiment contenu.
Question de Catherine au standard. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
C'est une grand-mère de 4 petits-enfants qui nous parle, je crois.
Tout à fait. J'ai 4 petits-enfants entre 15 jours et 12 ans.
Oui.
Et pour ma part, je fais le choix de n'acheter les jouets de Noël que dans des associations caritatives, Emmaüs, Notre-Dame des Sans-Abris, donc des jouets de seconde main que je trouve toujours en excellent état, magnifique, et qui font le bonheur de mes petits-enfants. Et pour moi, c'est aussi l'occasion d'envoyer un message fort à mes petits-enfants et à leurs parents sur la protection de l'environnement et la nécessité de solidarité et d'éviter le gaspillage.
Merci pour ce témoignage. Frédéric Teut, est-ce que les acheteurs comme Catherine restent l'exception ? Petit 1, le côté seconde main, et petit 2, le côté achat éthique. Est-ce que ça reste marginal ou est-ce que vraiment ça se développe ?
Alors ça se développe doucement, je dirais plus pendant l'année que pour Noël, mais c'est effectivement une tendance importante que l'on surveille. Ceci étant, les fabricants font des efforts énormes pour essayer d'être plus en accord justement avec ces nouvelles valeurs des consommateurs. Et je reviens juste du salon du jouet de Deauville où j'ai pu voir que de nombreux fabricants maintenant utilisent du plastique recyclé et recyclable, que la taille des boîtes a diminué justement pour les mêmes raisons et qu'on élimine le plus possible le plastique ou les plastiques qui entourent les boîtes. Donc c'est vraiment une volonté de la part de tous les fabricants, qu'ils soient français, européens, internationaux, et ils sont bien entendu à l'écoute de nos consommateurs.
Eh ben, ça nous amène au témoignage de Sarah. Bonjour Sarah.
Oui, bonjour. Alors moi je vous appelle parce que je suis maman d'un petit garçon qui a un an, et c'est vrai que j'ai de grandes difficultés à trouver des poupons non toxiques. C'est difficile de trouver les composants, même pour des grandes marques connues. Et du coup, bah, pour son anniversaire, là, j'ai opté pour un poupon en tissu, mais ça n'a pas du tout le même succès. Et donc, je voulais savoir comment être sûr de trouver des jouets, notamment des poupées, qui ne soient pas toxiques.
Restez en ligne. Je vais poser la question à Christophe Drevet. Et puis, si vous voulez réintervenir, est-ce que c'est clair ou net? C'est clair et net ou pas, les composants?
Ah oui, théoriquement, c'est absolument clair et net, et on peut pas parler de poupons toxiques, ça n'existe pas. En tout cas, tous les jouets de marque représentés par la fédération et qu'on trouve chez les distributeurs répondent à des normes extrêmement strictes. Le jouet, hein, il faut le savoir, c'est la catégorie de produits la plus encadrée, la plus normalisée, la plus réglementée, et c'est tout à fait normal vu le public auquel on s'adresse. Donc, il n'y a pas de poupons toxiques. Il y a un travail qui a été fait sur les plastiques, sur les teneurs. Il y a des discussions en permanence au niveau européen, parce que c'est vraiment une réglementation européenne qui s'applique à tous, qui est en cours. Et le travail est permanent pour ne pas laisser des produits qui pourraient avoir la moindre toxicité pour les enfants.
Et Sarah, vous avez du mal à les repérer, ces normes ?
Mais en fait, c'est par exemple de regarder la composition des poupées, même sur le site. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a en fait dans... Parce que notamment la question du parfum, pour certaines poupées, du parfum un peu vanillé. Et j'avais lu, mais c'était des articles... Ah non, pardon. Ouais. Mon petit garçon.
Ah bah oui. Bah, il réclame sa poupée. Bah tiens, on va soumettre votre remarque à Frédéric Teut. C'est bien,
juste une chose, un moyen très simple, hein, normalement tous les jouets doivent avoir un marquage CE. C'est une façon très simple déjà de vérifier s'ils sont bien en accord avec toute la réglementation européenne. Et normalement, il n'y a pas un seul produit sur le marché qui n'a pas cette norme.
Réglementation. Frédéric Teut, il nous reste deux petites minutes. Marque française, 14% du chiffre d'affaires du marché, c'est bien ça, on est au niveau de 2018. Est-ce que marque française veut dire « made in France » ?
Alors pas forcément, mais ça peut être le cas, effectivement. Je peux vous donner quelques exemples. L'année dernière, le jouet le plus vendu en France, c'était la Fabrica Histoire de Luni. C'est une société française qui a rapatrié toute sa production de l'Asie jusqu'à Bayonne et qui maintenant se fait fort de répondre à la demande grâce à un produit made in France, un très beau produit qui n'a pas d'écran et qui se vend beaucoup pour les petits, et surtout quand ils pleurent aussi, donc ça peut aider votre auditrice.
et donc sur ces marques françaises qui représentent 14% du chiffre d'affaires, combien vraiment fabriquent en France ?
Ça reste marginal ? Oui, ça reste marginal. Mais ceci dit, encore une fois, étant donné tout ce qui se passe au niveau logistique, les fabricants réfléchissent à la relocalisation et sont en train de mettre en place justement une relocalisation parcelle pour certains d'entre eux, pour essayer de faire revenir les produits en Europe. Mais pensez par exemple à Lego ou Playmobil, qui sont de très grosses marques européennes. Oui. Ils ont tous les deux des unités de production, donc chaque région qu'ils servent est donc en Europe. Donc c'est pas forcément la France, mais l'Europe. Aussi.
Christophe Drevet, j'ai l'impression que ces histoires de relocalisation de fabricants de jouets, ça reste l'exception. Alors Frédéric Teut nous dit que ça se développe, mais qu'on n'est pas encore dans un phénomène massif, ça reste très limité quand même.
Alors ça reste limité, il y a une vraie volonté de le faire. Après, la relocalisation ou la réindustrialisation est un processus très long. Ouais. Il faut recréer des compétences, des talents dans un tas de domaines, et ça prend du temps. Donc il y a une volonté forte de beaucoup de fabricants de se dire, a priori oui, essayons de faire sur place. Maintenant techniquement, on se trouve confronté à de nombreuses difficultés, c'est un processus qui prendra quelques années. Moi, je voudrais juste rajouter, puisqu'on est à un mois de Noël,
10 secondes,
ouais. C'est que un petit enfant français joue 1h30 par jour. C'est en France qu'on joue le plus, et les confinements précédents ont montré à quel point le jouet était essentiel à leur développement.
Et Jean Lebrun, qui est un grand enfant et qui vient d'entrer en studio, opine du chef. 13h45, merci à tous les deux d'avoir été avec nous.